vous souhaite la bienvenue dans ce cours du soir donc, qui va être consacré à l'imaginaire des intelligences artificielles dans la science-fiction. Alors, je suis contente d'avoir Gilles Menelgado, qui est un de mes collègues, donc, et spécialiste de cinéma, parce que demain, je vais pas tellement vous parler de cinéma, je vais faire quelques références, mais je dirais très, finalement, assez légère, assez superficielle, parce que vous avez, en fait, un cours spécifique demain sur le sujet. Voilà. Mais on pourra, évidemment, en parler sans souci quand vous en avez, quand vous avez envie de faire quelques remarques. Voilà. Alors, donc la présentation de ce cours, c'est de vous montrer. Alors, je ne suis pas une scientifique, je suis une littéraire, et la présentation de ce cours va consister à essayer de voir finalement, à explorer un petit peu l'imaginaire de la science-fiction, donc par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous proposer une définition. Peut-être que vous avez déjà eu, alors très très rapide, hein, évidemment. Peut-être que vous avez déjà eu dans le cours précédent une définition extrêmement précise, scientifique, de l'intelligence artificielle. Non, vous n'avez peut-être pas fait le cours précédent ?
Non,
du tout. Bon, ben voilà, donc c'est très bien. Donc moi, je vais partir sur des choses, je veux dire, très simples, hein, évidemment. Et puis, je vais essayer de vous montrer que, comme je suis plutôt une historienne, en quelque sorte, de la science-fiction, une historienne littéraire, je vais essayer de vous montrer un petit peu, finalement, comment on en arrive à l'intelligence artificielle dans la science-fiction. Parce que l'anticipation n'est pas née, évidemment, dans les années 1950. Hein. Bon, mais ça, c'est une... Alors, je ne sais pas si vous avez assisté à certaines tables rondes, notamment celle où nous avons évoqué le surhomme. Mais il y a eu une remarque donc d'Yves Frémion dans le public qui disait effectivement que le thème du surhomme remontait à l'Antiquité. Alors il faut savoir que dans la critique de la science-fiction, la critique universitaire, vous avez deux écoles. Vous avez une école qui est, je dirais, l'école qui a été fondée par Pierre Versin, qui est un grand spécialiste du genre et qui a donc en 1972 publié l'encyclopédie de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires. Ordinaire. Et Versin fait remonter la science-fiction quasiment donc jusqu'à l'Antiquité, et notamment à travers le mythe de Gilgamesh, puisque Gilgamesh est un personnage mythique qui part à l'aventure pour essayer de trouver l'immortalité. Vous voyez ? Donc, ce qui veut dire qu'on se situe véritablement dans une veine mythique et littéraire qui existe depuis très très longtemps. Puis vous avez une deuxième école, peut-être plus une école américaine, qui, elle, fait finalement démarrer la science-fiction véritablement à partir des années donc 1920-1930. Bon, alors moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pour ça que j'ai intitulé ce cours « Petite et grande histoire de l'intelligence artificielle » donc dans la science-fiction, parce que l'intelligence artificielle, ça ne naît pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez une véritable histoire finalement de la créature artificielle, donc inventée par l'homme. Hein, nous allons bien sûr commencer par cela. Alors, ce déploiement donc dans l'imaginaire finalement de l'intelligence artificielle, eh bien, on va le retrouver d'abord à travers la figure de l'automate, parce que le grand fantasme de l'humain, hein, je vais y revenir après un petit peu, le grand fantasme de l'humain, c'est justement de vouloir créer quelque chose à son image. Hein, depuis, depuis quasiment la préhistoire et le moment où finalement l'Homo sapiens a vu son reflet dans l'eau, eh bien, il n'a cessé de vouloir finalement essayer de reproduire son image. Et évidemment, techniquement parlant, on a commencé, alors pendant l'Antiquité, on a essayé, à travers évidemment l'art de la sculpture, on a reproduit un certain nombre de représentations, mais le grand fantasme humain, c'était finalement d'arriver à créer quelque chose qui pourrait mimer le mouvement. Et donc évidemment, c'est la première figure en quelque sorte, c'est l'ancêtre du robot, eh bien c'est l'automate. Ensuite, les quatre autres grandes figures finalement où l'on va trouver, qui vont permettre le développement de l'intelligence artificielle dans l'imaginaire de la science-fiction, c'est l'androïde, le robot, le cyborg et l'ordinateur. Voilà. Et donc, à travers ces différentes figures, dont je vais évidemment vous parler un petit peu, eh bien, on va voir que, évidemment, il y a une véritable évolution donc, de cette intelligence artificielle. Voilà. Alors, d'abord, premier point, je voudrais qu'on essaie un petit peu de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, d'abord, eh bien, l'intelligence artificielle, ça fait quand même débat, parce qu'il faut d'abord, dans un premier temps, essayer de définir ce que c'est que l'intelligence. Et ça, c'est une notion qui reste encore relativement floue, comment elle fonctionne. Aujourd'hui, vous le savez, avec le développement, par exemple, des neurosciences, on va essayer de déterminer finalement ce que c'est que l'intelligence. Alors, pour une définition, je dirais, l'intelligence, c'est la capacité à comprendre et à mettre en relation des concepts afin de s'adapter à une situation donnée. Ça, c'est la définition de base donc de l'intelligence. Alors, il y a dans l'intelligence plusieurs degrés de complexité. Le simple réflexe, par exemple, face au danger, l'élaboration de codes de communication pouvant aboutir à un raisonnement complexe qui mène ensuite aux émotions et à la conscience de soi. C'est-à-dire, grosso modo, il y a trois étapes, si vous voulez, par rapport donc à cette, pour pouvoir définir cette intelligence. Voilà. Et on a souvent tendance à résumer finalement ce concept d'intelligence à la prise de conscience de son existence et de son rapport au groupe qui permet de s'adapter à son environnement selon les codes, possibilités physiques, contexte social dans lequel l'individu évolue. Et donc l'intelligence artificielle doit être définie par rapport finalement à la notion même d'intelligence. Alors, on évoque ainsi deux types d'intelligence. Donc ça, c'est celui qui a défini l'intelligence, enfin le premier, l'intelligence donc artificielle, c'est Turing en 1950, et il nous dit justement que il y a deux types d'intelligence, il y aurait la possibilité d'avoir deux types d'intelligence artificielle. Alors, ce qu'il appelle l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire la simulation d'une intelligence à partir d'algorithmes capables de résoudre des problèmes donc peu complexes. Alors, on va les retrouver par exemple dans la réalité, dans les logiciels de conversation, dans les robots qui cherchent à imiter la conversation humaine, mais bon, qui peinent encore à convaincre évidemment dans la grande majorité donc des tests, et notamment le fameux test de Turing dont je vais vous parler tout de suite après. Voilà. Ce qu'on appelle le test de Turing, alors là je vais faire un retour en quelque sorte un retour à la science-fiction, parce que ce qu'on appelle le test donc de Turing, en fait c'est une expression qui semble avoir été inventée en 1968 par Arthur C. Clarke dans son roman dont a été tiré le film donc 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors tout le monde connaît l'histoire de 2001. Oui, hein, voilà, oui, c'est un grand classique. Donc, hein, Gilles, tu vas en parler, je sais très très bien. Il faut quand même que je fasse cette référence-là. Et donc, l'ordinateur HAL, alors qui s'écrit H-A-L, en fait, en anglais, pardonnez-moi pour l'accent, c'est Heuristically Programmed Algorithmic Computer. D'accord ? Donc, on prend Heuristically et Algorithmic, ça fait HAL. H, donc A-L. Et donc Arthur C. Clarke nous dit justement donc dans ce roman que cet ordinateur passe le test de Turing. À noter également pour revenir à évidemment la science-fiction, que les réplicants dans le film donc Blade Runner passent le test de ce qu'ils appellent Wolfkampf, pardon, une variante du test de Turing qui est destinée à déterminer leur degré d'empathie et aussi leur degré, on va dire, de capacité émotionnelle. Vous voyez ? Donc, il y a un lien déjà très très fort entre, finalement, la science-fiction qui va tenter de déterminer en quoi, finalement, ces modèles sont des intelligences artificielles. Voilà. Et donc, le test de Turing, qu'est-ce que c'est ? C'est une proposition de test d'intelligence artificielle fondée sur la faculté d'imiter la conversation humaine. Et donc, ce test consiste à mettre en confrontation verbale un humain avec un ordinateur et un autre humain à l'aveugle. Si l'homme qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé avec succès le test. Donc, grosso modo, le test, finalement, donc de Turing, c'est une assimilation, une analogie entre l'ordinateur et l'humain. Voilà. Alors, l'IA, ce qu'on appelle donc l'IA faible, est également présente dans de nombreux robots virtuels. Par exemple, les petits robots que vous avez sur le site Wikipédia, vous savez, ces petits robots qui analysent finalement toutes les propositions donc de l'encyclopédie en vue donc d'un adjectif donné, par exemple, ou encore les petits robots, les algorithmes que vous allez retrouver chez Google, hein, sur Google, hein, qui, par exemple, quand vous faites une recherche sur Google et peut-être 5 minutes après, donc les petits robots entre guillemets, les algorithmes en fait repèrent finalement ce que vous avez cherché pour vous proposer donc des produits. Et ça c'est finalement, voyez, c'est quasiment une intelligence artificielle, ce qu'on appelle une intelligence artificielle faible. Alors ce qui intéresse la science-fiction plus précisément, c'est ce qu'on appelle donc l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire que, alors qu'est-ce que c'est? Et c'est évidemment cette intelligence-là qui va nourrir tous les fantasmes qui impliquent, en plus d'un comportement donc intelligent, d'éprouver une réelle conscience de soi, ce qui implique évidemment la présence d'émotions et de sentiments. Alors, dans la science-fiction, vous avez un exemple, je dirais, tout à fait intéressant avec l'homme bicentenaire, donc d'Isaac Asimov. Parce que, alors, l'homme bicentenaire, il y a une version, donc il y a une version filmique il y a quelques années avec le regretté Robin Williams. Vous l'avez peut-être vu à la télévision il y a quelques temps. Et donc, dans l'homme bicentenaire, finalement, ce qui est intéressant, enfin, c'est une nouvelle hein, au départ. Ce qui est très intéressant dans cette nouvelle, c'est qu'elle a, si vous voulez, donc deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que nous avons un robot qui finalement accède à la conscience de soi. Mais une conscience de soi qui va faire que son fantasme à lui, c'est de quitter finalement son monde machinique pour aller de plus en plus vers l'humain. Et notamment de quitter son immortalité machinique. Et de se retrouver, donc il se fait implanter donc des prothèses synthétiques, donc il commence par changer l'apparence humaine, ensuite il change par exemple ses organes, et donc il va aller finalement vers une véritable nature humaine physique. Et en fait son but c'est de devenir mortel et donc de quitter effectivement sa nature de robot. Et puis je dirais que l'autre intérêt donc de l'homme bicentenaire d'Asimov, ça va être finalement de montrer l'éveil d'une intelligence qui devient totalement autonome. C'est-à-dire que par rapport aux autres robots que vous avez dans cet univers, donc nous sommes dans un futur. C'est plutôt une anticipation, nous sommes dans les années à peu près, grosso modo, entre 2050 et 2100, donc notre quotidien est littéralement envahi par les robots, mais ce sont des robots qu'on programme et qui n'ont donc pas d'autonomie de pensée. Or, l'homme bicentenaire, eh bien, accède à cette autonomie de pensée, accède à cette conscience de soi, et nous assistons dans cette nouvelle à la véritable naissance d'une intelligence artificielle. Voilà. Voilà, alors, deuxième élément, donc ça va là pour l'instant, hein ? Oui, alors ça c'est après, attendez, je vais y revenir après, bon c'est pas grave, ça vous met l'image. Alors, deuxième, donc ça c'était un petit peu les prolégomènes en quelque sorte donc de ce cours. On va maintenant passer aux avatars finalement de l'intelligence artificielle dans la littérature et le cinéma, et on va commencer par justement cette histoire. Cette histoire donc de l'évolution de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, on commence par les automates. Alors, les automates, c'est en quelque sorte donc la réalisation, la première réalisation d'une sorte de robot. Alors là, évidemment, il n'est absolument pas question, je dirais, d'intelligence artificielle. Mais c'est le début parce que, véritablement, c'est la mise en place d'une très haute technologie qui, au XVIIIe siècle, était donc la technologie horlogère. Et une des plus belles pièces, finalement, de l'automate, c'est ce qu'on appelle le canard de Vaucanson, donc en 1738, donc au XVIIIe siècle, où vous aviez donc un automate qui reproduisait complètement, notamment, la fonction digestive. Alors évidemment, on n'a pas de témoignage pour savoir si ce n'était pas, donc si c'était véritablement un automate qui était capable de digérer, si ce n'était pas un petit peu une supercherie ou une escroquerie. Mais il n'empêche, si vous voulez, que cet automate était capable donc de manger un certain nombre d'aliments et évidemment de suivre le parcours de la digestion et donc de recracher en quelque sorte, ou de rejeter donc ces aliments. Et donc véritablement, je dirais, c'est la première fois donc que ce canard artificiel boit, mange, cancane, barbote et digère comme un vrai canard. Il était possible de programmer les mouvements de cet automate grâce à des pignons qui étaient placés sur un cylindre gravé. Donc vraiment, c'était la haute technologie donc de l'horlogerie de cette époque. Il a été exposé pendant plusieurs années en France, en Italie. Il a fait le tour de l'Angleterre et malheureusement, l'incendie donc du musée où il était entreposé de Nijni Novgorod en Russie en 1879 le détruisit. Donc on n'a aucune trace de cet automate. Alors après, je reviens à la littérature parce que dans la littérature, on va retrouver cette figure de l'automate. Par exemple, donc Hoffmann, dans L'homme au sable en 1817, donc on est au tout début du 19e siècle, décrit une poupée mécanique, dont s'éprend donc le héros. Alors, attention, parce qu'à cette époque-là, nous sommes en plein dans l'esthétique romantique. Et je pense que Hoffmann s'est servi de l'automate pour l'opposer à l'homme et pointer ainsi les dérives de la société bourgeoise allemande de l'époque. Voilà. Et puis, d'autre part, la comparaison entre l'automate et la femme dénonçait le rôle de marionnette qui lui était assigné. Voilà. Alors, ce qui veut dire que de l'automate, on va donc passer ensuite... Voilà, on va passer évidemment aux créatures artificielles et aux robots. Alors, je vous ai donc je brosse un tableau parce qu'il y a beaucoup de textes évidemment. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir donc les textes qui mettent en scène des créatures artificielles que l'on peut donc assimiler à des robots. Donc, vous avez L'homme au sable, donc 1817, mais également Villiers de l'Isle-Adam avec L'Ève future, donc en 1886. Et c'est souvent les femmes d'ailleurs qui étaient reproduites en tant que créatures artificielles. Mérimée, La Vénus d'Île en 1837. Évidemment, Mary Shelley dans Frankenstein, donc pour le Prométhée moderne, donc en 1817. Et puis, bien sûr, Karel Čapek, donc je vais y revenir un petit peu plus longuement, en 1921. Donc là, on passe quand même un cap, avec donc la pièce de théâtre Ruhr, hein, c'est Rossons, donc Universal Robots. Ruhr est une pièce de théâtre. Et ce qui est très étonnant, si vous voulez, alors je vous expliquerai évidemment le contexte par rapport à cette pièce de théâtre, mais une pièce de théâtre de science-fiction, c'est quand même suffisamment rare, là aussi, formellement, si vous voulez, pour que justement on puisse le pointer. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que justement les romantiques s'intéressent justement à la créature artificielle, donc androïde. Donc créature artificielle, on l'a vu avec le canard de Vaucanson, mais là, la littérature va créer finalement. Donc, est-ce qu'on est dans la science-fiction? Est-ce qu'on est dans l'anticipation? On est dans une période où, si vous voulez, les thèmes finalement du fantastique et de la science-fiction parfois se chevauchaient un petit peu. Je pense qu'un des textes peut-être les plus significatifs à ce niveau, c'est le Frankenstein de Mary Shelley. Parce que, alors je vais vous donner deux exemples. Le Frankenstein de Mary Shelley, On peut évidemment le voir comme, je dirais, le texte, un des textes fondateurs de la science-fiction. Pourquoi ? Parce que nous sommes, si on reprend par exemple la définition que donnait Gernsback donc, de ce que c'était que la scientific fiction, c'est-à-dire qu'on part d'un fait scientifique pour ensuite donner évidemment un développement et une histoire. Bon. Donc dans Frankenstein, nous avons le docteur Frankenstein qui crée une créature artificielle à partir finalement de cadavres, en se servant de l'électricité, hein, une très forte donc, dose d'électricité, pour créer finalement la vie artificielle. Donc c'est pas vraiment un thème fantastique. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant très longtemps, on a vu dans Frankenstein, par exemple, on a vu Frankenstein comme un texte fantastique, surnaturel, parce que la créature artificielle, ce n'est pas du tout une thématique qui appartient au fantastique. C'est pas une créature surnaturelle, c'est une créature en quelque sorte créée par la science. Vous voyez, donc on est bien dans la science-fiction. Et pourquoi est-ce que justement très rapidement donc le Frankenstein a été assimilé, donc de Mary Shelley a été assimilé à un texte fantastique? Parce que on était en pleine période finalement du gothique anglais, avec une ambiance particulière où il y avait là aussi par exemple beaucoup à cette époque donc de textes plutôt fantastiques, je pense notamment à la littérature vampirique, qui se situait dans la même ambiance, voyez. Et donc le Frankenstein de Mary Shelley pendant longtemps a été plus ou moins assimilé à du fantastique, alors qu'en réalité c'est vraiment donc de la science-fiction. Voilà. Alors donc ici, en créant un être artificiel, alors le problème c'est que d'un point de vue donc du récit, évidemment, pour les personnages et pour ceux qui créent ces créatures artificielles, ça ne se passe pas vraiment bien. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs, par exemple, de la Vénus d'Île, donc de Mérimée, ou de l'Ève future, mais dans tous ces textes, finalement, va ressortir alors quelque chose qui va nous rapprocher de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la thématique de l'homme qui se prend pour Dieu, qui crée donc une... c'est ce qu'on appelle le mythe de Prométhée, qui va créer finalement une créature artificielle qui se prend pour Dieu parce qu'il crée la vie, même si c'est une vie artificielle qui n'est pas vraiment une vie. Et donc évidemment, c'est une quête qui ne peut que déclencher des cataclysmes à la mesure des forces qu'il avait défiées finalement jusqu'à son propre anéantissement. Et c'est bien sûr le cas de Frankenstein, puisque le roman se termine très très mal, et pour la créature bien sûr, et pour son créateur. Voilà. Et donc ici, on a un petit peu, je dirais, dans ces textes-là, on a une trame faustienne qui va devenir le lieu commun des histoires de créatures artificielles androïdes. Alors, pourquoi trame faustienne ? Parce que un artiste ou un savant crée un androïde à partir de matériaux inertes. Encore une fois, c'est Frankenstein. L'homme ne pouvant donner la vie sans intervention divine, il y a donc nécessairement l'entrée en scène d'un principe supérieur ou surnaturel. Mais en enfreignant volontairement les interdits religieux, le créateur coupable s'attire les foudres divines et doit répondre de ses actes. La créature échappe alors à son contrôle et se retourne contre lui et ses proches avant de disparaître elle-même. Et ça, c'est une thématique qu'on va retrouver évidemment à l'autre bout du XXe siècle, ou dans la littérature bien sûr, et surtout dans le cinéma, puisque vous allez retrouver finalement cette thématique, cette trame, à travers l'histoire du robot HAL de l'Odyssée de l'espace, ou encore on va retrouver cette trame par exemple dans Blade Runner, puisque dans Blade Runner on a véritablement les créatures, les réplicants, qui donc vont se révolter contre leur créateur. Il y a la scène évidemment très très connue dans Blade Runner où donc le réplicant héros, Roy Batty, donc va tuer son propre créateur. Vous voyez, donc on est entre quasiment à 150 ans d'écart, on est véritablement dans la même trame, et on est dans une veine littéraire, ou une veine thématique, ou une veine mythique qui va se poursuivre. Et ce que je voulais bien vous faire comprendre à travers ces exemples-là, c'est que justement, donc l'intelligence artificielle, étant une créature finalement humaine, va se retrouver donc prise dans la science-fiction, dans ce questionnement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, ou est-ce que ça vous... Non, ça vous va ? Bon, très bien. Voilà. Donc il y a, je vous ai donné quelques exemples, j'aurais pu vous en donner d'autres, vous donner aussi l'exemple du golem. Je ne sais pas si vous avez, si vous connaissez l'exemple du golem. Donc le golem, c'est un roman de Gustave Meyrink. Est-ce que j'ai noté la date que je n'ai pas en tête? C'est à la fin du 19e siècle. Je ne l'ai pas noté. Bon, et dans le golem, en fait, nous sommes dans le mythe de la créature, puisque le golem a été créé. Donc, c'est un petit peu un mythe de l'Europe de l'Est. Le golem a été créé à Prague, et c'est une créature donc mythique, créée à partir de l'argile. Alors, vous voyez, derrière, évidemment, il y a le mythe biblique, hein, bien sûr. Donc, créé par un rabbin. Et ce golem, évidemment, cette créature donc d'argile, doit obéir à son créateur, mais va finalement lui échapper et commettre donc des meurtres dans Prague. Et pourquoi je vous parle du golem? Parce que pour vous montrer qu'encore une fois, finalement, la forme de la créature artificielle ou de l'intelligence finalement qui naît va se retrouver une forme très plastique qui va prendre différentes formes dans ce qu'on pourrait appeler finalement l'ancêtre de la science-fiction. Donc soit une créature d'argile, soit une créature artificielle faite à partir de cadavres, soit finalement une sorte de créature mécanique. Voyez, donc il y a tout un ensemble de formes pour aboutir à une forme dans la science-fiction totalement dématérialisée, finalement, donc courant du XXe siècle, sous la forme de l'ordinateur. Voilà. Gilles, je ne sais pas si demain tu vas parler de des bonnes sites ou pas.
Ah, demain.
Oui. Ouais, oui,
oui, c'est d'accord. Essentiel.
Oui, voilà, donc c'est... C'est bien. Alors, je vais vous passer. Alors, vous avez également, j'oubliais, toujours dans ces nouvelles fantastiques, qui finalement ne sont pas si fantastiques que ça, il faut quand même citer aux États-Unis Edgar Poe, donc, qui a été traduit par Charles Baudelaire, dans L'homme qui était refait en 1839. Donc, c'est une nouvelle de Poe qui va justement mettre en scène une statue donc vivante. Voilà. Alors je passe quelques années pour nous retrouver donc en 1921 avec l'auteur tchèque donc Karel Čapek qui va inventer finalement le robot moderne donc dans sa pièce en 1921 Rossum's Universal Robots, voilà, qui donc est nommé Ruhr. Alors il faut donc, ce qu'on sait dans la science-fiction, essentiellement, c'est que le mot robot donc vient du tchèque robota. Ce qui est intéressant dans la pièce, c'est que quand Čapek donc la crée, en fait, il pensait, pour lui, robot, en fait, c'était plutôt, donc en tchèque, travailleur, c'est laborie, c'est pas robota. Et robota, ça veut dire travail forcé en tchèque. C'est-à-dire que la figure du robot, dès le départ, est considérée comme les robots sont considérés comme des esclaves dans la pièce, d'accord ? Ils sont créés pour ça, pour justement servir une gigantesque usine. Hein. On est donc à l'époque de l'organisation scientifique du travail dans les années 20 avec le Fordisme et le Taylorisme donc aux États-Unis. Et donc, eh bien, le créateur de ces robots décide donc de créer véritablement une armée de travailleurs. Alors, si vous voulez, ce qui est un petit peu frustrant finalement dans la pièce, c'est que on ne nous explique absolument pas à aucun moment comment ces robots ont été fabriqués. On n'est plus, si vous voulez, sur des androïdes. Il n'y a pas d'explication à ce qu'il y a des pièces mécaniques, etc. On les appelle simplement simplement des robots. Voilà. Alors, je fais juste un petit détour par l'automate avant de vous montrer donc une photo de Ruhr. Alors, ça, c'est un automate du XVIIIe siècle. D'accord ? Donc, voilà, un automate qui était capable donc de jouer du clavecin. Ça, c'est un automate. Donc, je vous pose une petite colle. Hein. À votre avis, c'est pour ça que j'ai pas mis les références. D'où vient ce photogramme ?
C'est un humain.
C'est pas un humain, c'est un automate.
Parce qu'en arrière-plan, on dirait une humaine.
Oui, il y a une humaine.
D'accord.
Bon, je vous aide, c'est une série. c'est une série. Oui, c'est bien. Voilà, c'est très bien. Donc, évidemment, alors, c'est un épisode. C'est l'épisode donc, qui est consacré donc, Doctor Who. Vous savez, c'est la série de science-fiction. Et dans cet épisode-là, le docteur va se retrouver donc, dans un vaisseau totalement... donc, il part à la dérive. Et dans ce vaisseau, il y a des automates. Et ces automates, en fait, ont tué l'équipage pour utiliser leurs organes et réparer le vaisseau spatial. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette image, si vous voulez, c'est que finalement, à 250 ans de distance, on a l'utilisation par la science-fiction de la figure de l'automate. Parce que, donc, c'est sorte de c'est vraiment dans la série Doctor Who. Donc là, vous voyez, ils ont cette espèce de masque, mais quand le masque tombe, ils ont une tête transparente avec vraiment des mécanismes tels qu'ils pouvaient exister dans les automates du XVIIIe siècle. Vous voyez, donc on a la réutilisation, finalement, par la science-fiction, de cette figure, donc, de l'automate. Voilà. Alors, quelques éléments aussi sur les textes que je vous ai proposés. Voilà, donc, l'homme au sable avec cette poupée, donc cette créature artificielle sous la forme de cette poupée parlante. Donc, le Frankenstein, évidemment, de Mary Shelley. Et alors, intéressant, j'ai choisi cette couverture donc, chez Flammarion, puisque pour illustrer la future donc, de Villiers de l'Isle-Adam, on a bien sûr... une image qui me vient de Métropolis avec la représentation donc, du robot Maria. Donc vous voyez ce que je veux vous montrer aussi un petit peu à travers ce cours, hein. C'est pour ça qu'on parle d'imaginaire, parce que tout se construit véritablement en suivant, vous voyez, une thématique, des contextes, des époques, mais qu'il y a une véritable évolution dans cette figure donc, de l'intelligence artificielle. Voilà, je me dépêche un petit peu. Alors, si vous avez envie de lire donc, ces nouvelles, il y a donc une anthologie. Alors, vous pouvez l'acheter en e-book. Hein. Je crois d'ailleurs que ce n'est qu'en e-book. Ça s'appelle Robot Erectus. Voilà, où vous avez toutes les nouvelles fantastiques, vous voyez, qui vont justement nous amener à cette figure donc, du robot. Hein. Voilà. Et puis, évidemment, représentation du HAL, de l'Odyssée de l'espace, simplement pour montrer comment on passe de cette représentation du robot dans la science-fiction, représentation donc assez classique, finalement, à la représentation de l'ordinateur. Alors, voilà. Donc, là, encore une fois, pareil, donc ça, c'est une image que j'ai empruntée à Robot Erectus, pour vous montrer finalement, donc là vous avez une représentation du golem, là vous avez le Frankenstein et là vous avez donc un des robots donc, de Karel Čapek sur lequel je vais revenir tout de suite, et évidemment ici l'automate et la statue de l'Antiquité. Vous voyez, donc il y a vraiment une continuité sur cette histoire donc, de la créature artificielle. Alors, pour le rôle donc de Karel Čapek, ça c'est donc une des rares, on n'a pas beaucoup hein, de photos parce que de la représentation. Donc ce qui est intéressant, vous voyez, dans cette image, c'est vraiment la prédominance donc du robot. Pourquoi c'est intéressant, Rour? Parce que donc, non seulement il y a la création du mot robot, et ensuite parce que la mise en scène va nous montrer comment finalement les robots prennent le pouvoir donc, sur les humains. Les humains n'arrivent pas à croire que les robots peuvent avoir une conscience, de la réflexion, vouloir notamment la liberté, le bonheur, et donc du coup ils ne se méfient absolument pas. Et comme l'usine continue, alors c'est une usine qui se situe sur une île, comme l'usine continue à fabriquer des milliers de robots chaque jour, il arrive un moment, un point de rupture où finalement les robots eh bien, deviennent plus importants que les hommes. Et à ce moment-là, ils se révoltent et donc ils tuent les humains. Et finalement, à la fin de la pièce, il ne reste plus que donc deux humains qui vont être épargnés par les robots, qui vont les garder un petit peu comme des sujets d'expérience, mais le monde entier donc, est envahi par les robots. Et ça, c'est ce que nous explique cette pièce, 1921, c'est en fait aussi la naissance de l'intelligence artificielle telle que je vous en ai donné la définition donc, au début de ce cours. Voilà. Voilà. Alors, autre intérêt de Rour, si vous voulez, c'est que on va passer du modèle finalement de la créature artificielle solitaire qui se retourne contre son créateur à la rébellion meurtrière d'une population entière de robots contre l'espèce humaine. C'est-à-dire que on transpose finalement la classique révolte des esclaves, hein, telle que on a pu la voir par exemple dans Spartacus, à ce qui allait devenir un stéréotype de la science-fiction, c'est-à-dire la révolte des machines. Alors là, je ne veux pas empiéter sur le cours de mon collègue, mais évidemment, le cinéma s'est complètement emparé donc de cette thématique-là parce que des révoltes de machines et donc des ordinateurs ou des robots qui évidemment, vous voyez, les robots d'Asimov sont des robots qui sont dans iRobot. Donc là aussi, il faut que je vous explique donc quelque chose. Tout le monde connaît les robots d'Asimov. Bon, les robots d'Asimov, c'est donc un ensemble de nouvelles qu'il a écrit à peu près pendant une quinzaine d'années. Donc sur les robots. Les robots d'Asimov sont maintenus en quelque sorte, si vous voulez, dans une bonne conscience et donc une bonne ligne de conduite par rapport aux humains par les trois lois de la robotique. Tout le monde s'en rappelle ou je vous les rappelle un petit peu? Non? Oui? Alors, attendez, parce que je ne les connais pas par cœur. Voilà, alors, donc les robots, c'est 1950. Et on dit que ces trois lois de la robotique lui ont été soufflées par John Campbell. Voilà, alors, dans les robots, première loi. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Une loi zéro sera ajoutée par la suite, un robot ne peut nuire à l'humanité dans son ensemble. Donc ces lois ont pour but finalement de construire l'esclave idéal qui accepte d'obéir puisqu'il a été créé pour cela, vous voyez. Et donc chez Asimov, les robots, c'est des gentils robots, voilà. Mais si on passe ensuite à l'Odyssée de l'espace, et évidemment l'Odyssée de l'espace, c'est aussi un roman de Clark en 1968, et bien dans l'Odyssée de l'espace, on a un ordinateur qui va devenir l'assassin, évidemment, donc de tous les astronautes qui sont dans la station spatiale. Et donc là, évidemment, on n'a pas du tout le même type d'image. Je vais prendre deux autres exemples donc du cinéma. Vous allez avoir, alors c'est Gilles, j'ai plus la date du film. Je sais que c'est un roman de Dean Koontz sur Demon Seeds. C'est 1971.
C'est 73.
Je 73, crois. Voilà. Donc en 1973, vous avez donc, alors c'est un film qui s'appelle Génération Proteus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein, voilà. Alors j'ai malheureusement pas eu le temps de vous montrer des images de Génération Proteus. Mais dans Génération Proteus, on a donc un ordinateur, alors qui est en plus représenté de façon assez bizarre, puisque l'ordinateur, ce sont des pièces, si vous voulez, mécaniques, carrées, avec une espèce de bras comme ça qui se déplie. C'est un ordinateur domotique. Donc un ordinateur domotique, c'est un ordinateur qui est censé, si vous voulez, nous apporter finalement le confort. Chez Bradbury, par exemple, notamment dans « Il viendra des pluies douces », c'est une des nouvelles qui font partie du cycle des chroniques martiennes, vous avez donc là aussi des ordinateurs qui gèrent la maison. C'est une très jolie nouvelle d'ailleurs, mais c'est un ordinateur qui ne va pas se rebeller contre son créateur. Alors que dans « Génération Proteus », donc cet ordinateur-là finalement se rebelle contre son créateur, emprisonne finalement la femme de son créateur, donc il l'enferme dans la maison dont finalement il a la totale maîtrise, il la viole et elle se retrouve, alors c'est un peu limite de l'horrifique, hein, vous voyez, il la viole, enfin, ou tout du moins il essaie plus ou moins, la scène n'est pas très explicite à ce sujet, et donc l'héroïne tombe enceinte de l'ordinateur. Et alors scène évidemment très très gore un petit peu à la fin, puisqu'elle accouche d'un bébé qui est un bébé totalement, qui a la forme humaine mais qui est un bébé mécanique. Voilà. Et donc, là, vous voyez, on a un ordinateur qui, vraiment, il y a des scènes... donc, c'est comme c'est issu d'un roman de Dean Koontz, hein, qui est donc, bien sûr, quelqu'un qui fait... un écrivain qui fait beaucoup plus dans l'horrifique, hein, l'horrifique contemporain que dans la science-fiction. Vous voyez, on est un petit peu à la limite, finalement, du roman très, très angoissant. Et le film, d'ailleurs, est le reflet de ça. Troisième exemple sur ce retournement, finalement, sur ce retournement des machines et cet éveil de l'intelligence artificielle, c'est bien sûr la saga Terminator, avec les trois films, et notamment le deuxième donc, et le troisième, qui nous montrent véritablement comment l'ordinateur, donc les machines, s'emparent du pouvoir, finalement naissent à la conscience et veulent détruire toute l'humanité, hein, dans une guerre thermonucléaire. Voilà. Alors, et donc, j'en reviens à Roure, et vous voyez que cette thématique-là, eh bien, elle prend naissance dans cette pièce de théâtre. Donc, non seulement Karel Čapek a inventé en quelque sorte le mot robot, il y a d'ici quelques temps, je pense, j'ai écrit un article qui sera visible sur Internet, où vous aurez toute la contextualisation justement de la pièce. Comment finalement Roure, eh bien, aboutit, enfin, est le point de départ finalement de la révolte des machines et de cette intelligence artificielle donc qui va s'éveiller. Voilà. Bien. Alors, je vais pas empiéter finalement pour le cours de demain sur le cinéma, mais simplement citer comme ça quelques films qui, à mon avis, sont tout à fait représentatifs dans la science-fiction. Vous voyez, de cette évolution qui vient de la littérature et qui va prendre un essor absolument faramineux donc au cinéma. Donc on a évidemment l'Odyssée de l'espace en 1968. On va avoir également donc en 1973 donc le film que j'ai évoqué, hein, donc Demon Seeds. Vous avez évidemment en 1981 donc Blade Runner de Ridley Scott. 1982, on a Tron, vous voyez, où là on a le mélange machine, on est complètement dans l'imagerie de la science-fiction, et puis surtout, bon, Tron en 1982, c'était vraiment l'occasion finalement de montrer la nouvelle esthétique finalement de l'ordinateur vu de l'intérieur. On a également en 1985 Daryl, Android que le gouvernement américain cherche à détruire. Toujours dans la même thématique, bien sûr, on a Matrix. Donc là, Matrix, c'est vraiment, si vous voulez, le modèle du genre de la révolte des machines, de l'asservissement donc, de l'humain. Donc L'Homme Bicentenaire, qui est un film et qui est aussi une nouvelle. Et puis on a, bien sûr, alors, je pourrais citer iRobot, donc le film... de 2004, ou encore en 2001, donc le film de AI, Intelligence Artificielle, de Spielberg, évidemment. Alors, à noter, si vous vous y intéressez, que AI est donc inspiré de la nouvelle de Brian Aldiss qui s'appelle Les Super Toys durent tout l'été. Voilà, parce que c'est donc la représentation d'un robot. Alors, en conclusion, donc je dirais, je me dépêche parce qu'après, si vous avez des questions, alors, on ne peut pas tout évoquer, hein, vous avez bien compris que... En 45 minutes, évidemment, je ne peux pas vous brosser toute cette histoire de l'intelligence artificielle, mais pour vous montrer que les principes, si vous voulez, que l'on va retrouver dans cet éveil de l'intelligence artificielle dans la science-fiction moderne, prennent naissance véritablement dès le 18e de cette vision donc de la créature artificielle. Alors, je vais quand même finir par citer donc en conclusion, à mon avis, deux œuvres de science-fiction. La série télévisée suédoise donc de 2012-2014 que vous avez peut-être vue sur Arte, donc Real Humans, qui décrit vraiment l'émergence de robots doués de conscience au sein de la société humaine. Mais là, on a quasiment affaire à des robots mutants, vous voyez, des androïdes mutants. Et puis, bien sûr, en 2013, le Air de Spike Jonze avec donc Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson qui imagine une histoire d'amour entre un homme et une intelligence artificielle. Vous voyez, donc là, finalement, l'image de la science-fiction, après avoir été extrêmement négative, revient finalement à des éléments plus positifs et à évidemment, bon, le thème de l'amour, vous voyez, entre une intelligence artificielle et un humain, même si ça peut nous apparaître comme un petit peu sentimental, ce film est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il montre justement aussi la mutation des sentiments humains qui vont trouver plus de réponses chez l'intelligence artificielle finalement que chez ses congénères. Alors, je dirais que cette évolution donc du thème des robots, des machines, des ordinateurs, comment est-ce qu'on peut finalement la synthétiser ? Alors, quelques idées. Les machines disparaissent, alors ça existe aussi, les machines disparaissent et l'homme continue son chemin avec moins de confort mais également moins de risque de commettre l'irréparable. C'est ce que j'ai appelé dans ma, ce que j'ai appelé dans mon ouvrage un peu une utopie régressive, si vous voulez. C'est-à-dire que finalement on supprime les machines et il n'y a plus de problème avec l'intelligence artificielle. Bon. Deuxième idée, les machines et les hommes cohabitent en équilibre dans un monde bien géré. Donc ça, c'est par exemple les robots d'Asimov. Les machines se rebellent, c'est l'Odyssée de l'espace. Les machines réduisent l'homme en esclavage, Matrix, Terminator. Les hommes maîtrisent l'évolution des machines, chez Star Trek par exemple, ou la Guerre des Étoiles, où là finalement, vous voyez, dans la Guerre des Étoiles ou dans Star Trek, on ne se pose absolument pas la question de savoir s'il va y avoir, enfin, si l'intelligence artificielle peut être négative. Parce que la technologie a atteint un tel point qu'elle est d'ailleurs presque assimilée à de la magie. Voyez, et donc finalement, l'intelligence artificielle ne fait que servir l'humain. On ne se pose jamais la question de savoir si l'intelligence artificielle, hein, c'est notamment l'imagerie qu'on a dans Star Wars, si l'intelligence artificielle, à un moment donné, peut éventuellement se rebeller contre son créateur. Ça, c'est totalement absent de ces deux films. Alors, deux autres idées pour terminer. L'homme se sent imparfait ou dépassé et se transfère dans la machine. Donc là, on est sur l'extrême de ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement du transhumanisme. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, l'homme ne rêve que... c'est ce qu'on appelle aussi la post-humanité. L'homme ne rêve que de, finalement, devenir une machine ou de se transférer dans la machine parce que la machine est tellement plus parfaite, finalement, que nous. Voilà. Et donc, vous avez, par exemple, La cité des permutants de Greg Egan dans ce sujet, qui est vraiment l'illustration totale, finalement, de cet extrémisme, finalement, du transhumanisme. Alors, je voudrais vous citer aussi un essai, je ne sais pas si vous le connaissez, de Jean-Michel Beignet, qui s'appelle « Demain, les post-humains ». Ça vous dit quelque chose? C'est très très bien. C'est une excellente. C'est un collègue philosophe donc de Paris 4 qui, à un moment donné, en prenant les images de la science-fiction, donc Demain les post-humains de Jean-Michel Beignet. Je crois qu'il est en livre de poche en plus. Donc vraiment, c'est un livre à se procurer parce que il nous fait véritablement une synthèse de ce vers quoi nous allons. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes déjà dépendants de la machine, on a déjà des téléphones portables, on a déjà l'ordinateur. On peut très difficilement, bien sûr qu'on peut s'en passer dans l'absolu, hein, je suis bien d'accord, mais on peut aujourd'hui très difficilement se passer, vous voyez, de tous ces petits artefacts finalement qui nous entourent. Très bientôt, on va avoir des puces, de la nanotechnologie. J'ai eu la chance de discuter avec Bernard Clavry, qui est le directeur de l'école polytechnique de Bordeaux, qui est le créateur de la notion de ce qu'on appelle l'homme augmenté. Vous savez, l'homme augmenté, c'est l'humanité qui, finalement, va vivre en étant connectée complètement et progresser, finalement, grâce à la machine. Mais du coup, nous abandonnons notre naturalité. Nous abandonnons finalement notre nature humaine. Voyez. Et pour ces chercheurs, à l'horizon 2025, on y sera. C'est un scientifique, hein, c'est pas quelqu'un, vous voyez, qui se projette comme nous dans la science-fiction du tout. C'est quelqu'un, les scientifiques véritablement se projettent dans cette image-là de l'homme augmenté à l'horizon 2025, c'est-à-dire demain pour nous. Vous voyez, c'est dans même pas 10 ans. Voilà. Et donc du coup, on est complètement ici dans Jean-Michel Beignet appelle les post-humains. Et il se pose à un moment donné pour dire, voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est prêt psychologiquement à finalement devenir autre chose que des humains? Hein, question qu'on peut se poser. Voilà. Et puis je terminerai sur une note très négative. Donc l'homme disparaît et le règne de la machine est total. Mais Les machines gardent un souvenir de l'homme. C'est le cas de l'intelligence artificielle de Spielberg, de AI. Les machines développent leur propre civilisation. C'est le cas, par exemple, des Borg dans Star Trek. Ou encore, les machines représentent l'étape suivante de l'évolution des espèces. Et là, je fais référence à un roman de Jean-Michel Truong, qui s'appelle, donc écrivain français, qui s'appelle Le successeur de Pierre. Voilà. Et donc, vous voyez qu'à travers cette petite synthèse, cette exploration donc, de l'imaginaire, finalement, de l'intelligence artificielle, on a parlé un petit peu, évidemment, de tout, mais je tenais vraiment à vous brosser, finalement, ce tableau, cette synthèse, pour essayer de tisser des liens et de voir que, finalement, ce sera le mot de la fin. On est, avec cette thématique de l'intelligence artificielle, on est dans ce que j'appelle la mythologisation de l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, la science-fiction permet de s'interroger sur les mythes du futur. Et l'intelligence artificielle, le fait que l'on soit relié aux machines, la post-humanité, les créations que nous faisons aujourd'hui, si vous voulez, eh bien la science-fiction les transforme en mythes à travers les films, à travers évidemment les séries, à travers la littérature. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? J'ai survolé, il y a plein de choses évidemment que je peux pas vous dire. Moi, les 8h30, c'est un peu dur, peut-être.
Donc, je voudrais juste vous demander, par rapport à Real Human, si vous sentez à l'intérieur, parce que je me suis posé la question, s'il y avait un arrière-plan transhumaniste ou pas.
Ah oui, c'est très clair. C'est très clair, puisque vous savez, dans Real Humans, vous avez deux finalement courants idéologiques. Vous avez ceux qui sont, alors je suis désolée, on va faire peut-être référence, voilà, mais nous sommes dans un avenir assez proche, en 2000, je vais pas vous dire de bêtises, 2040 je crois, il me semble, nous sommes dans cet avenir très proche, et donc des robots ont été créés, des créatures donc synthétiques, pour faire tous les travaux que nous trouverions désagréables. Voilà. Et donc évidemment, ces robots servent aussi d'esclaves sexuels, servent dans les maisons, servent à garder les personnes âgées, etc. C'est-à-dire un avenir qui, à mon avis, peut exister dans peu de temps. Bon. Et alors, vous avez dans cette série donc un groupe qui est totalement contre les robots. Et puis un groupe qui est tellement pour les robots, qui aime les robots finalement, qui n'a envie que de vivre avec ces robots. Et je pense que là, oui, tout à fait, c'est l'illustration du transhumanisme. Absolument. C'est-à-dire cette idée que l'avenir de l'homme passe par l'intégration dans la machine.
Mmh. Oui. Et non, moi, je trouve qu'il y a des enjeux idéologiques, hein, puisque dans cette série, ceux qui s'opposent aux robots, ce sont d'infâmes écologistes.
Oui.
Ils sont montrés comme ça.
Donc là, des terroristes.
Oui, c'est des Khmers verts, quoi, donc.
Oui.
Voilà, quoi, donc je pensais qu'il y avait un substrat. Mais en même temps, je trouve que la manière dont c'est conduit, la ligne idéologique, elle n'est pas aussi claire que dans le transhumanisme
direct. Je trouve que dans la série, la ligne idéologique, là, est très ambiguë.
Voilà.
Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est une série scandinave et que les Scandinaves ont une vision un petit peu différente de la tolérance, du rapport à l'autre, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui se voit. C'est-à-dire que le Scandinave va dire pourquoi pas essayer cette vie. Après tout, voilà, pourquoi pas essayer cette liberté sexuelle que permettent donc ces robots, enfin bon, etc., etc. Donc, il y a une vision, je pense que pour nous, Français, peut-être Latins, vous voyez, c'est là où, enfin, on a du mal à percevoir, justement, c'est un peu flouté pour nous, parce que nous ne sommes pas dans la société scandinave. Vous voyez, je pense que c'est un peu différent. Ce serait un peu différent si on était scandinave nous-mêmes, voyez. Mais le rapport à la vie, à l'autre, est différent en Scandinavie par rapport, par exemple, à la France. Mais la question que pose, si vous voulez, enfin pour moi, cette série, elle était tout à fait passionnante. En même temps, un peu, j'ai trouvé que la quincaillerie science-fiction dans la série où on voit, donc on est en 2040 et les robots se rechargent avec une clé USB, on sait très bien qu'en 2040, la clé USB se sera largement dépassée. Vous voyez, donc on sera tout à fait dans autre chose. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'elle pose justement cette question, c'est-à-dire est-ce que nous sommes prêts à accueillir des robots dans nos vies quotidiennes. Il faut savoir que au Japon, toute l'industrie et la recherche robot, enfin la recherche, sont fondées actuellement justement sur le développement de la robotique. Et est-ce que nous sommes psychologiquement prêts à accueillir ces robots dans notre vie ? Il ne faut pas oublier que à la fin du 19e siècle, après évidemment, enfin même la seconde partie du 19e siècle, avec la seconde révolution industrielle, il y a eu des révoltes dans les usines parce qu'on avait peur que les machines prennent le travail des ouvriers. Et aujourd'hui, vous voyez, la question va être, elle a été posée, j'ai vu récemment aux actualités, elle a été posée, on nous dit qu'il va y avoir, que les robots vont nous enlever, je ne sais plus, 3 millions, vont détruire 3 millions d'emplois. Bon, la question, elle est certes là, mais elle est aussi, est-ce que nous sommes prêts à avoir des créatures artificielles à côté de nous ? Pour l'instant, c'est des objets. Je veux dire, la notion d'intelligence artificielle aujourd'hui, elle n'existe pas. Mais la question, c'est, est-ce que nous sommes prêts ?
Vous trouvez qu'il y a un enjeu ?
Ah oui, moi je pense qu'il y a un enjeu.
Moi je trouve qu'on est prêt puisque c'est déjà accepté. Je trouve que l'usage des machines, je ne sais pas ce que vous en pensez.
L'usage
de l'ordinateur et tout ça, je veux dire, il n'y a aucune résistance, aucune difficulté.
Oui. Oui, parce que pour l'instant, l'ordinateur, si vous voulez, reste finalement. C'est la tablette, mais reste une petite, vous voyez, une tablette, une petite machine. Quand après, parce que les Japonais travaillent quand même sur des robots humanoïdes qui reproduisent, voyez, les émotions. Donc là, on est dans quelque chose de totalement, totalement différent. Et oui.
C'est au niveau de la forme qu'on lui donne, c'est tout.
Oui, mais je pense que ça risque quand même d'avoir des conséquences sur l'acceptation que nous pouvons avoir par rapport à ces machines.
Imaginons qu'il n'ait pas de forme humanoïde, il n'y a aucun problème.
Ah oui, si vous avez, ça existe, les petits robots.
Alors, c'est l'empathie aussi, c'est ce que vous disiez. Ils travaillent sur la capacité relationnelle du robot et être capable au moins d'analyser des émotions et d'en renvoyer, pas d'en éprouver, mais de... Donc c'est ça, un ordinateur, il n'est pas encore en pâte avec nous.
Ouais. Vous l'avez vu, le film R ?
Oui.
Ouais.
Voilà.
Enfin, moi, je trouve ça.
Oui, bah là, pour le coup, l'ordinateur est complètement en empathie avec. Bien sûr. Oui, non, moi, je crois qu'il y a un enjeu, si vous voulez, derrière cette idée de l'intelligence artificielle, et c'est ce que montre vraiment la science-fiction, c'est-à-dire est-ce que nous serons prêts à accepter ces créatures artificielles à côté de nous ? Peut-être que l'intelligence artificielle se développera un jour ou l'autre, et comment, finalement, est-ce que nous. Comment est-ce que nous allons l'accueillir ? Même si, vous voyez, on vit avec ce que j'appelle les artefacts, l'ordinateur, le téléphone, etc., c'est des petites machines. Mais pour l'instant, c'est pas une altérité. Quand les robots vont arriver dans notre vie, on ne le verra peut-être pas, nous d'ailleurs, mais je pense que ce sera une altérité qui va arriver. Et comment est-ce que nous allons réagir par rapport à ça ? C'est la question, vous voyez, c'est la question qu'on peut se poser. Comment. L'autre question par rapport à l'homme augmenté, par exemple, bon, on nous pose de plus en plus de prothèses, donc l'idée qu'il y a derrière, c'est comment allons-nous accepter l'artificialité ? C'est-à-dire qu'on est en train de se transformer quelque part en créature artificielle.
Oui, mais le dire comme ça, c'est que là, on est déjà l'énoncé comme ça dans le transhumanisme.
Ah oui ?
Alors que moi, j'y crois pas du tout à cette histoire. Je crois que c'est une projection totale.
Ah, c'est possible.
Et dans tout ce que... Non, mais... Après, c'est pour ça que moi je suis venu parce que je pense qu'il y a un enjeu politique derrière, en fait. Et que je crois que toutes moi j'étais sensible quand vous avez essayé de faire la jointure avec le fantastique, parce que je crois qu'on est dans un monde fantastique, en fait. Déjà, quoi. Et que l'usage des machines, c'est déjà une forme de robotisation.
Ah oui, oui,
et
oui.
Que,
oui.
À travers toute cette littérature, on ne peut pas s'empêcher de voir, de pouvoir se projeter. Le Frankenstein, c'est jamais. Ou le HAL 9000, c'est jamais que. Dans le film de Kubrick, ou. Enfin, je ne me rappelle plus dans la nouvelle, ou le roman de.
De Clark, oui.
De Clark, je ne me rappelle plus.
Mais il a fait une nouvelle et après, il a fait un. En fait, il a refait un roman.
C'est une novélisation.
En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est le personnage le plus jeune.
Oui.
En fait, quand vous avez montré l'œil, C'est l'œil de la conscience, en fait, l'œil rouge.
Ah oui, 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 c'est l'éveil de Bach. Vous avez la même chose dans le Terminator, hein. Il y a quand même une référence très, très claire. Oui.
Je veux juste faire remarquer que même HAL, une intelligence artificielle faible, puissante, mais faible, il n'a pas d'humanité. À chaque fois qu'on met l'humanité dans une intelligence artificielle et donc elle devient parfaite à notre image, c'est un accident. C'est jamais une conception voulue. C'est un accident. Qu'est-ce qu'il y a encore, iRobot, c'est des accidents.
L'homme bicentenaire, oui, c'est un accident. Aussi.
Aujourd'hui, c'est vraiment du fantastique, l'intelligence artificielle forte. Elle n'existe pas.
Ouais. Enfin, ah oui, oui, tout à fait.
Juste un détail dans le débat, c'est simplement que, en fait, il prend en charge la pulsion de mort à 9000, et qui est une pulsion proprement humaine. On imagine comme ça, dans la révolte des robots, que justement, ils la prennent en charge. C'est ça leur intérêt. Donc c'est ça que je voulais dire, il y a comme
une
projection, un renversement.
Où le personnage humain enlève, vous savez, est en train de le détruire, et puis il y a la voix qui, évidemment... Voilà, oui, on en parle demain, parce que là, je...
Pour moi, c'est que d'algorithme encore, là. C'est pas du sentiment.
Moi, je trouve que c'est montré comme étant du sentiment, dans le film. Même si l'explication fait que c'est... qu'il dit que c'est de l'algorithme, tel qu'il est montré, c'est vraiment...
Et j'avais une autre question à ce propos. Qui est-ce qui a sorti l'intelligence artificielle de cette forme humanoïde? C'est les littéraires ou le cinéma? On imite l'animal, on imite l'homme, on cherche systématiquement à mettre l'intelligence artificielle dans un corps. Quand la notion de travail... quitte la notion laborieuse pour aller vers quelque chose de plus intellectuel.
Je pense que ça s'est fait de façon parallèle quasiment, parce que la représentation du robot Maria, c'est un robot, ça reste pas, c'est pas vraiment, enfin on peut pas l'assimiler à une intelligence artificielle. Je sais pas. Non, pas trop. Oui, il faudra en discuter, mais.
Parce qu'il y a. Enfin bon, je sais.
Oui, voilà. Je pense que ça s'est fait à peu près. Voilà, ça s'est fait à peu près au même moment, puisque Rohr, c'est les années 20. J'aurais pu parler aussi du miroir flexible, donc de Régis Messac, en 1937. Et donc c'est dans les années 20-30, je pense que ça s'est développé à la fois au cinéma, puisqu'il y a eu aussi les versions évidemment du Frankenstein en 1931. Donc on est vraiment, vous voyez, c'est une décennie là où la représentation a vraiment l'assimilation entre créature artificielle, robot et finalement éveil de l'intelligence artificielle, tout ça s'est fait à peu près en même temps. Mais on reste quand même dans les prémices dans les années 20-30, il faudra attendre quand même les années en littérature, bien les années 50-60, pour que justement on commence à voir une intelligence artificielle dans un ordinateur et puis dans un robot, dans les années 50. Bon, il est 9h-4. Je vous remercie de votre attention. Et puis, j'espère que je vous aurai bien fait réfléchir pour la nuit.